Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur Inter, bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 juin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une nouvelle étape dans la campagne de vaccination avec l'ouverture aux 12-17 ans, 5 millions d'ados partagés comme leurs aînés entre enthousiasme et hésitation. Nous les entendrons. Une vaccination qui obéit en tout cas à des règles précises avec notamment l'accord des deux parents. On voit ça Agnès après les autres titres.
Et c'est le jour J pour les Bleus. Premier match de l'Euro face à un adversaire aussi connu que redouté, l'Allemagne. Et avec de fortes contraintes sanitaires pour les 3000 supporters français qui auront la chance d'être ce soir dans le stade de Munich. La reprise progressive du trafic aérien à Roissy, la fin du cercle infernal des sanctions commerciales entre les États-Unis et l'Europe, et puis le festival Arabofolie à l'Institut du Monde Arabe qui s'ouvre à toutes les formes d'art.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
La révélation du moment, elle présente son premier film tourné à 19 ans à peine et déjà sélectionné au festival de Cannes et de Toronto. Il raconte les émois et les ennuis d'une adolescente de 16 printemps. C'est le titre du film. Suzanne Lindon sera notre invitée à 7h50.
Et on se retrouvera tout à l'heure, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Son projet de loi climat et résilience est au Sénat cette semaine et vous pourrez dialoguer avec elle au 01 45 24 7000. Enfin, ne manquez pas à 7h15 le Zoom aujourd'hui au large de Saint-Brieuc sur le chantier du parc éolien offshore.
France Inter.
Ils disent vouloir partir en voyage, faire la fête et laisser tomber les masques. Les ados qui le souhaitent peuvent désormais se faire vacciner, avec leur consentement donc, et l'autorisation des deux parents, dont un devra être présent lors de l'injection, forcément dans un centre de vaccination, puisque seul le vaccin Pfizer est autorisé pour les 12-17 ans. 5 millions de jeunes sont concernés. Certains hésitent encore, car la vaccination divise aussi les familles. Reportage à Paris de Julie Paco.
Il y a d'abord les ados pressés de se faire vacciner, comme Félix, Augustin et Sarah, 17 ans.
On va essayer le plus tôt possible. Dans ma famille, on est tous pour le vaccin et j'estime que c'est important.
C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger les autres et pour trouver une vie normale, je pense que c'est la solution. Il faut passer par là, quoi.
J'ai toujours dit que dès que ça allait être ouvert, j'allais le faire. Il n'y a pas eu de débat. Mes deux parents sont d'accord, ils sont vaccinés. Donc voilà, moi, dans ma famille, il n'y a pas eu ce souci-là sur le consentement.
Mais Léo, lui, s'interroge toujours.
Mes parents, ils veulent qu'on parte à l'étranger. Du coup, ils veulent que je me fasse vacciner. En gros, ils disent, ouais, t'en auras besoin, il y a le pass sanitaire, tout ça. Alors, j'essaie d'esquiver le sujet, mais je dis, je suis mitigé, mais je crois que je vais y passer. Hein.
Cet adolescent de 17 ans pourra donc faire part de ses craintes auprès d'un professionnel de santé lors de l'entretien au centre de vaccination, car le consentement éclairé du mineur est obligatoire, tout comme l'autorisation des deux parents. Des parents qui restent pour certains réticents. Agnès a deux ados de 12 et 14 ans.
Je ne compte pas les faire vacciner, même si je suis en opposition avec mon mari, qui lui est pour. On nous a parlé pendant tout l'hiver du bénéfice risque, et là, je ne vois pas le bénéfice pour les enfants. Donc, j'attends d'abord que tous les adultes se soient fait vacciner et après on verra et on aura un peu plus de recul pour les enfants et les risques qu'ils peuvent encourir ou pas.
Le temps aussi d'avoir un moment de dialogue et de réflexion en famille sur l'enjeu de la vaccination chez les adolescents.
Vaccination, test PCR, test antigénique, le chemin jusqu'au stade de Munich ce soir va ressembler à un parcours du combattant. 3000 supporters français seront dans les tribunes pour l'entrée en lice donc de l'équipe de France dans l'Euro face à l'Allemagne, qui pourra compter sur 11 000 supporters de la Mannschaft, 15 000 personnes donc en tout dans un stade qui peut en temps normal en accueillir 70 000. Les premiers fans des Bleus sont déjà arrivés à Munich où Thibaut Lefèvre les a rencontrés.
3h30 de route depuis Strasbourg pour Pierre, Romain, Geoffrey, Andreas et Mathias avant de prendre le pouls de l'ambiance munichoise.
Une petite bière, France-Allemagne, là on est bien, on se met bien.
Une attente plutôt agréable donc pour les 5 copains, fans des Bleus mais sevrés de stade depuis près d'un an et demi.
Ça fait tellement longtemps, être en tribune, même chanter, même si on sera que 2800, c'est pas grave. Plus, France-Allemagne, c'est une affiche de finale. Hein. Du coup, un an et demi de manque, revoir les copains, visiter, tout mélanger, ça fait un cocktail. On est des enfants, là.
Une délivrance d'autant plus intense qu'il a fallu se plier aux très nombreuses règles sanitaires imposées par l'UEFA.
Il faut être motivé, quoi, vraiment.
Andreas ne quitte pas des yeux son téléphone pour être sûr, jusqu'au dernier moment, de rester dans les clous.
C'est infernal. Là, on reçoit des mails tous les jours à propos de ça, parce que y a des changements puisqu'ils se font à dernière minute. C'est vraiment vraiment, vraiment compliqué. Il faut faire des tests et des tests dès qu'on fait quelque chose. Et du coup, bah, nous, on doit à chaque fois faire plein de démarches justement pour pouvoir avoir simplement le droit d'aller dans un stade. Quoi. Donc, pour venir jusqu'ici, c'est vraiment beaucoup d'organisation quand même.
Encore un dernier test antigénique ce matin dans un centre agréé. Et s'il est négatif, les supporters pourront enfin retrouver le plaisir d'encourager ensemble l'équipe de France.
Allez, bleu, allez, reportage de Thibault Lefèvre à Munich. France-Allemagne donc ce soir à 21h sur M6, après Hongrie-Portugal à 18h. Et en France, le couvre-feu permettra de regarder le match avec une petite tolérance, le temps de rentrer à la maison. Mais pas question, disent les services du ministère de l'Intérieur, d'accepter des défilés tardifs dans les rues. L'Euro de foot, mais aussi le Maroc qui rouvre ses frontières et l'amélioration de la situation sanitaire dans de nombreux pays européens devrait donner des envies de voyage cet été dans les aéroports. On se prépare donc à un flux de passagers bien plus important que l'été dernier. Les équipes se préparent donc activement. Reportage à Roissy, signé Delphine Evenou.
Le terminal 2 est encore loin d'être bondé. Le nombre de passagers va monter en puissance d'ici le cœur de l'été. Mais avec 50% du trafic d'avant-pandémie prévu, Perrine Dugler, responsable d'exploitation aéroport de Paris à Roissy, est très confiante.
Aujourd'hui, à l'enregistrement, on a un temps de traitement qui est relativement rapide, c'est rentré dans les mœurs, les compagnies ont l'habitude, c'est relativement fluide.
Des départs fluides quand les arrivées sont parfois plus problématiques.
Le risque de temps d'attente, il est sur les pays rouges où vous avez une circulation active du virus. Le temps de vous faire retester, effectivement, là vous pouvez avoir un process d'arrivée qui peut prendre autour de 1h30, 2h avant de pouvoir rentrer sur le territoire.
Depuis le 9 juin, l'espace Schengen est en vert, plus de formalité à la descente d'avion, les compagnies s'en sont occupées en amont, de quoi aider à décongestionner. Mais pour la chef d'exploitation, le vrai bonus, ce sera le pass sanitaire européen le 1er juillet et la dématérialisation des preuves.
Aujourd'hui, vous avez un temps de traitement, on va dire, de 2-3 minutes par passager, notamment à la police, pour pouvoir sortir tous ces documents. Demain, on espère bien qu'en une dizaine de secondes, vous puissiez passer et qu'on ait la certitude que vous avez bien tous les documents avec vous.
À Orly, Air France propose déjà d'utiliser tous anti-Covid pour les vols avec la Corse. 70% des passagers s'y prêtent. Ce sera le cas dans quelques jours à Roissy.
Et les Anglais, eux, devront patienter 4 semaines supplémentaires avant de retrouver une totale liberté face à la circulation du variant indien. Boris Johnson a annoncé hier soir le report de la levée totale des restrictions au 19 juillet.
Il est 7h07, stopper l'escalade des taxes, Agnès, entre les États-Unis et l'Union européenne.
Ce sera l'enjeu aujourd'hui de la tournée européenne de Joe Biden. Le président américain participe à un sommet UE-USA en présence de la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et du président du Conseil Charles Michel. Il sera question de coopération pour lutter contre la pandémie et pour la défense du climat. Mais il sera aussi question, Angélique Boin, des relations commerciales très abîmées sous leur Trump, avec des sanctions qui ont fait bien des dégâts des deux côtés de l'Atlantique.
Aux taxes sur l'acier et l'aluminium dégainées par Trump, les Européens avaient répondu avec une hausse des droits de douane sur plusieurs produits comme les Harley-Davidson ou les jeans Levi's. La hache de guerre est enterrée, on négocie intensément pour régler l'ensemble des litiges. Ce sera au menu des échanges, mais ne rêvons pas, ce ne sera pas résolu aujourd'hui, indique une source européenne. Les Américains restent en effet durs en affaires, dit-on à Bruxelles. L'Amérique est certes de retour, mais sert toujours en priorité, on l'a vu avec les vaccins, ses propres intérêts. Les Européens espèrent avoir réglé ce différend d'ici la fin de l'année. En matière commerciale, ce sommet va tout de même relancer la coopération UE-États-Unis. Les deux blocs vont annoncer, entre autres projets, la création d'une structure commune de commerce et de technologie. Sa mission sera de sécuriser certaines chaînes d'approvisionnement stratégiques, comme celle des semi-conducteurs, ou bien d'élaborer des normes communes dans le secteur du numérique, de l'intelligence artificielle par exemple, pour imposer des normes éthiques occidentales et contrer, sans la mentionner, la Chine. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
La Chine qui accuse ce matin l'OTAN d'exagérer la théorie de la menace chinoise en créant artificiellement des confrontations. La Chine dont on attend aussi des explications après les révélations hier sur un incident survenu dans le réacteur EPR1 de la centrale nucléaire de Taishan. EDF, qui a construit l'EPR et qui reste impliqué dans sa gestion, parle de rejet de gaz dans l'atmosphère maîtrisé, respectant les normes locales. Nous ferons le point dans le journal de 8h. Quel avenir pour les fonderies de France? La question revient aujourd'hui avec une audience dans le Jura pour MBF Aluminium, entreprise en redressement judiciaire. Les syndicats accusent les constructeurs français de ne pas remplir suffisamment les carnets de commandes. Et ce n'est pas la seule entreprise en difficulté dans un secteur en pleine mutation. Maxime Debs.
Quand vous voyez qu'il y a 6 fonderies sur le point de fermer, c'est quand même une catastrophe.
6 fonderies en tout, du Jura au Poitou, et face à l'Assemblée venue manifester hier les salariés de l'usine Alvens Aluminium Wheels, dernier site en France fabriquant des jantes alu près de Châteauroux, qui pour Pierre-Paul Clic, responsable maintenant, c'est en train de couler car jugé trop cher par les constructeurs.
Sur une voiture, 20 euros trop cher. Donc on va couler 300, une usine avec 300 personnes à Châteauroux pour 20 euros par bagnole.
À la place, Renault et PSA font tourner leurs usines, notamment au Maroc. Ces derniers invoquent à la fois un secteur, la fonderie, en pleine mutation, des techniques ayant évolué, des sites français parfois dépassés, des matériaux à l'heure de l'électrique devant être allégés. Sous le regard d'un État apparaissant comme résigné à ses salariés, en avril dernier, 50 millions d'euros débloqués pour le personnel de ces métiers pour rebondir ailleurs. Et après, questionne Christophe Pestel, secrétaire général de l'UNSA Métallurgie.
Nous, on souhaiterait que l'argent qui va être réinjecté pour ce qu'on appelle la reconversion soit fait sur la filière. La difficulté, c'est que non seulement on détricote une filière, et le jour qu'on aura besoin, on n'aura plus personne sous la main.
Une situation dramatique qui, pour les syndicats, vient percuter les promesses de relocalisation de l'an dernier.
Reportage de Maxime Debs. Et puis 2 ans après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, une usine du groupe est en proie aux flammes depuis maintenant 16 heures aux États-Unis, dans l'Illinois. Et il faudra encore sans doute plusieurs jours pour éteindre l'incendie. Les habitants les plus proches de cette usine qui produit des lubrifiants ont dû être évacués. Et si la pandémie avait finalement permis à certains festivals de se réinventer? Le festival Arabofolie, par exemple, à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Après plusieurs éditions annulées, la manifestation musicale se tient en ce moment, une édition plus longue et ouverte à d'autres arts pour faire rayonner toutes les cultures de Méditerranée et du monde arabe. Mathieu Culeron.
L'Institut du monde arabe a dû se réinventer pour organiser son festival Arabofolie. Un festival élargi dans le temps, mais aussi dans sa programmation. Dorothée Engel est en charge de la direction artistique.
On est toujours là. Et surtout, on est arrivé à cette édition triple, j'ai envie de dire, parce que au lieu de 10 jours, c'est du 5 juin au 30 juin. Une édition qui intègre donc les Arabofolies, Festival musical des arts et des idées. Et on y intègre de la danse, du débat d'idées, plusieurs séances de cinéma. On est très très heureux.
Après un hommage au peuple soudanais, le festival Arabofolie propose ce soir une performance entre théâtre et musique autour de l'œuvre de Lorca, ou le concert la semaine prochaine de la chanteuse Oum qui évoque le statut de la femme. La musique, une façon de lutter grâce aux émotions. Dorothée Engel.
Un instrument de rêve, un instrument d'émancipation, un instrument pour affirmer et exiger sa liberté, un instrument d'amour. En fait, la musique, c'est vraiment les émotions.
Arabofolie jusqu'à la fin du mois à l'Institut du Monde Arabe. Théâtre, débat, musique et danse. Une manière élégante d'unir les cultures arabes au sens large, dans la joie et la liberté.
Culture donc, rendez-vous à l'Institut du Monde Arabe à Paris.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, c'est le Zoom aujourd'hui sur le chantier du parc éolien en mer, en baie de Saint-Brieuc.